Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines. C'est de parvenir en un point exceptionnel, où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. Amis auditeurs, bonjour. Le constat d'Antoine de Saint-Exupéry rejoint parfaitement les intentions du pape François, qui a terminé il y a quelques jours le plus long voyage de son pontificat, dans le but de raffermir la foi de différentes communautés chrétiennes. Retour sur ce fabuleux voyage apostolique qui vient de s'achever. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame. Bonjour Thomas.
Bonsoir.
Thomas Wald, vous êtes journaliste à l'aide à l'Église en détresse et vous avez particulièrement suivi le voyage du souverain pontife. Pour ceux qui découvrent l'existence de ce voyage, pouvez-vous nous faire un point rapide sur les différentes destinations du Saint-Père et sur les raisons de ce voyage ?
Les destinations, ça a été d'abord Singapour, puis ensuite donc l'Indonésie, la Papouasie orientale et le Timor oriental. Je ne sais pas si je les ai toutes dans le bon ordre. Mais ça représente un voyage, comme vous le disiez, le plus long du pontificat, mais c'est aussi probablement la plus longue distance jamais parcourue par un pape lors d'un voyage pontifical, parce que c'est des distances gigantesques qui ont été parcourues.
Ce voyage, il est marqué par des contrastes extrêmement forts. L'Indonésie est majoritairement musulmane, la Papouasie est majoritairement chrétienne, Singapour est un des pays les plus riches au monde et le Timor oriental, une des nations les plus pauvres. Pourquoi le choix d'une telle diversité de profils ?
Je pense que simplement, géographiquement, ça s'explique. Au fait, on est dans l'aire d'influence de l'Indonésie au sens large. C'est ce pays-là qui domine toute cette région-là. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément sur nos planisphères. On ne se rend pas compte du gigantisme de ce pays. Entre l'ouest et l'est de l'Indonésie, il y a la même distance qu'entre Paris et Kaboul en Afghanistan. C'est pratiquement un continent, si vous voulez. Donc c'est ce pays-là qui domine effectivement cette région-là. Les autres ont leur histoire propre, mais qui est très liée à ce pays-là, pour le meilleur ou pour le pire.
Vous êtes en train de nous dire que l'Indonésie, c'est la véritable cible de ce voyage ?
Je ne dirais pas ça comme ça, parce que ce serait insultant pour les autres. Et dans les autres pays, effectivement, le pape était excessivement attendu, en particulier au Timor oriental, qui est le pays le plus catholique du monde, hein, en proportion. 98% de la population est catholique. En Papouasie orientale aussi, le pays est très largement chrétien. Bon, les catholiques sont en minorité, mais le pays est très, très majoritairement chrétien. Et puis, c'est un christianisme très jeune, très dynamique. Et à Singapour, il se passe quelque chose qui contredit toute la vision traditionnelle qu'on a du sécularisme et de l'évolution de la religion, c'est que les religions sont en progrès à Singapour, alors que c'est un des pays les plus riches du monde. Donc chaque destination, si vous voulez, a sa richesse propre, a son intérêt propre, mais évidemment l'Indonésie, par son poids démographique, par son gigantisme, et puis par l'importance qu'elle a simplement comme acteur géopolitique, est évidemment au cœur du voyage du pape.
Et puis le pays qui ne fait pas partie de ce voyage, mais qui est dans toutes les têtes, c'est la Chine. Pouvez-vous nous parler des raisons qui expliquent son importance au sein de la diplomatie vaticane ?
La Chine, c'est un rêve de jésuites déjà. Les jésuites ont toujours été passionnés par la Chine et ont vu une très grande et très belle terre d'évangélisation. Et c'est évidemment un pays à avoir en ligne de vue pour quiconque veut évangéliser, parce que c'est un milliard d'habitants, parce que c'est probablement la première économie mondiale, parce que c'est un pays d'une toute première importance, et dans le même temps, c'est un pays où l'évangélisation est excessivement difficile. Le pape tourne un peu autour de la Chine, on l'a vu en Mongolie, là on le voit en Indonésie. Ce serait évidemment très intéressant de voir le pape pouvoir faire un voyage pontifical en Chine, mais encore faudrait-il qu'il le fasse dans des conditions qui soient acceptables et que ce ne soit pas une publicité pour le Parti communiste chinois.
Pour l'instant, le Parti communiste refuse tout voyage du pape.
Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que c'est toujours plus compliqué que ça avec les communistes chinois, d'une part. Il serait probablement très content de voir venir le pape dans leurs conditions et pour dire qu'ils sont une nation ouverte et tolérante, et puis pour faire éventuellement rentrer dans le rang les catholiques chinois qui ne sont pas qui refusent d'être affiliés à une église dite patriotique. Donc le Parti communiste chinois, le connaissant, serait très intéressé par un voyage du pape dans leurs conditions. Évidemment, le pape ne peut pas accepter leurs conditions. Alors je ne suis pas dans le secret des rois, je ne suis pas dans le secret des papes et des communistes chinois, mais j'imagine qu'il peut y avoir des tractations entre eux, mais des deux côtés, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas lâcher.
Thomas Veld, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays extrêmement important dans lequel l'islam a une place très importante et où la liberté religieuse fait débat. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet enjeu ?
Là, je pense que c'est une des raisons profondes du voyage du pape. Il était prévu qu'il s'y rende dès 2020 en Indonésie, mais le Covid l'a empêché. Et si vous vous souvenez des voyages précédents du pape, avant 2020, il s'était rendu auparavant aux Émirats Arabes Unis et au Kazakhstan, donc deux nations à majorité musulmane. Je ne pense pas que c'est un hasard si les trois voyages s'alignaient de cette façon-là. L'Indonésie, c'est un pays excessivement important parce que c'est un pays à majorité musulmane qui est le plus peuplé au monde. Alors on dit souvent que c'est le premier pays musulman au monde, il faut voir comment est-ce qu'on compte ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de 200 millions de musulmans en Indonésie et que c'est un pays largement musulman. Donc ça, c'est pour le poids démographique. Et d'autre part, l'islam indonésien est très original. Ou plutôt il l'était, ça commence à changer malheureusement à mon avis. Il est très original parce que l'islam ne s'est pas installé en Indonésie par la conquête. Alors il y a des exceptions, on m'a repris là-dessus, il paraît qu'il y a des îles où il y a eu des conquêtes musulmanes aussi, mais sur l'ensemble de l'Indonésie, c'est surtout par des échanges marchands que l'islam est arrivé dans le pays, et ça se traduit par une forme d'acceptation d'autres rites, qui est quelquefois proche même du syncrétisme, où on a par exemple sur l'île de Java ou à Sumatra, des musulmans indonésiens qui continuent à pratiquer des rites qui appartiennent aux religions traditionnelles, donc des rites qui pourraient être considérés comme païens, ce qui serait évidemment complètement inimaginable en péninsule arabique ou dans d'autres pays à majorité musulmane. Par ailleurs, cette attitude-là, ça se traduit par des relations aux minorités religieuses qui est beaucoup plus apaisée que dans d'autres pays à majorité musulmane. Il y a une espèce d'habitude de vivre ensemble qui s'est installée en Indonésie, qui n'existe pas dans d'autres pays musulmans. Donc évidemment, pour le pape qui est passionné par le dialogue interreligieux, c'est une nation à avoir en ligne de mire et à surveiller de très près.
Et aujourd'hui, les autorités politiques indonésiennes, elles sont favorables à ce dialogue interreligieux, cette liberté religieuse ?
Elles font tout pour le montrer, en tout cas. Parce que c'est évidemment intéressant pour elles de montrer qu'elles sont une démocratie ouverte, qu'elles n'ont pas peur du sujet religieux, que toutes les minorités peuvent vivre de façon normale chez elles. Pour leurs relations internationales, c'est évidemment important. Dans les faits, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça.
D'accord.
À commencer par la question, il y a plusieurs questions. Pourquoi est-ce que je dis que c'est compliqué ? Pardon, je m'exprime mal, mais il y a plusieurs problèmes. Le problème principal, qui est vraiment le point noir de l'Indonésie, c'est la Papouasie occidentale, qui n'est pas un pays. J'ai parlé tout à l'heure de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un pays à part entière, qui est l'est de la Nouvelle-Guinée. Mais la Nouvelle-Guinée est coupée en deux de façon arbitraire, et toute la partie ouest de la Nouvelle-Guinée est découpée en sept régions indonésiennes, qui sont sous coupe réglée du régime indonésien. C'est une région qui est normalement à majorité mélanésienne, papou, d'ethnie, et à majorité chrétienne, mais qui est en train d'être colonisée, mais colonisée, le mot n'est pas assez fort, est en train d'être complètement écrasée, remplacée par la population indonésienne, parce que le régime indonésien, il voit son intérêt. Il y a des ressources minières très intéressantes, en particulier de l'or et du nickel en Papouasie occidentale, parce que c'est aussi des terres qui sont sous-peuplées, alors qu'une grande partie de l'Indonésie est surpeuplée, et donc c'est intéressant de pouvoir envoyer des populations là-bas. Et en raison de leur ethnie, en raison de leur religion aussi, les autochtones, donc les papous des régions occidentales, sont discriminés. Ils subissent toutes sortes de vexations, leurs droits civiques sont reniés, ils n'ont pas le droit de manifester. Tous ceux qui osent s'élever contre le régime sont tout de suite taxés d'indépendantistes et mis en prison ou menacés de la pire des façons possibles. Il y a des actes de torture qui sont relevés dans ces endroits-là. On m'envoie régulièrement des vidéos, des images de ce qui se passe là-bas et c'est absolument abominable. Et pourtant, on en entend vraiment peu parler. Et le régime indonésien a si bien coupé cette région-là du reste du monde que les journalistes ne peuvent pas s'y rendre, ne peuvent pas faire le travail là-bas. Et même les organisations non gouvernementales comme celle à laquelle j'appartiens, donc l'aide à l'exil en détresse, ne peuvent pas y travailler. Nous, on ne peut pas, au sein de l'aide à l'exil en détresse, soutenir les églises, les écoles catholiques là-bas, parce que le régime indonésien nous en empêche. Alors c'est un point noir, si vous voulez, de l'Indonésie, qui démontre à quel point ce régime qui se veut tolérant, ouvert, peut se montrer violent et brutal d'un autre côté.
C'est un combat qui est plus culturel ou c'est un combat qui est plus religieux ?
On ne peut pas complètement séparer les deux. C'est-à-dire que la religion est utilisée plutôt par le régime indonésien pour arriver à ces fins-là. Je ne suis pas là dans la tête de Jokowi, l'ancien président, ou l'actuel Prabowo, mais ils ne me donnent pas le sentiment d'être des grands religieux. Pas l'impression que c'est leur motivation première. Pourtant, je les vois bien utiliser la religion à leur fin dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'ils vont favoriser l'implantation de mosquées. On a même vu en Papouasie-Occidentale des jeunes, des élèves qui étaient dans des écoles catholiques qui ne pouvaient plus s'y rendre parce que l'école catholique n'avait plus d'argent, parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de fonds par ailleurs, être placés dans des écoles coraniques. On voit des mosquées être financées, alors qu'à côté de ça, construire un temple protestant ou construire une église catholique, c'est excessivement compliqué. Donc, si vous voulez, comme souvent, la religion est employée par ces gens-là à des fins d'agenda politique. On a retrouvé exactement la même situation au Timor oriental, dont on a parlé un petit peu avant, où il y a eu des situations qui sont proches du génocide. Hein. Bon, on peut toujours discuter génocide, pas génocide, mais c'est pas la question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu environ 200 000 morts, c'est-à-dire le quart de la population du Timor oriental à l'époque, à partir du moment où les troupes indonésiennes sont rentrées au Timor oriental, donc en 1975. Pendant 30 ans, plus de 30 ans, le pays a vécu sous la coupe réglée de l'Indonésie, a fini par obtenir son indépendance en 2002 grâce à l'action de l'ONU, grâce à diverses pressions internationales. Donc les personnes qui vivent maintenant en Papouasie-Occidentale voient ça et sont d'autant plus choquées de voir que leur situation ne fait pas plus parler.
Amis auditeurs, nous sommes avec Thomas Oswald, journaliste à l'aide à l'Église en détresse, et nous revenons sur le contexte du voyage du pape François. Avant de continuer, c'est l'heure de notre petite pause musicale. Oh Lord, hear our prayer. Bless this land where we stand. May we be light for our nation. May we thank you. Amis auditeurs, vous êtes en train d'écouter Bless Our Singapore. Singapour, un pays dans lequel le pape François est allé, une musique réalisée par Corinne May. J'étais avec Thomas Oswald et nous discutions de l'Indonésie et de la liberté religieuse en Indonésie. J'aimerais approfondir sur ce sujet, Thomas Oswald, et vous poser la question, peut-être de manière un peu cash, mais est-ce qu'il y a une tolérance religieuse en Indonésie ? Est-ce que réellement les catholiques, les chrétiens peuvent exercer la foi de la manière dans laquelle ils souhaiteraient le faire ?
Il y a une grande disparité en Indonésie, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pratiquement un continent, ça fait la distance de Paris à Kaboul en Afghanistan, donc c'est immense. Il y a en plus une grande diversité d'îles, et il y a la question du point noir de la Papouasie occidentale, qui est effectivement une région qui est sous coupe réglée, où il n'y a pas vraiment de liberté religieuse, puisqu'on n'a pas le droit, en tant qu'association caritative, on n'a pas le droit de venir aider, et on voit qu'il y a une colonisation du pays par une population à majorité musulmane, qui a des constructions de mosquées, donc il y a une série de points qui montrent que la liberté religieuse est mise à mal. Dans le reste du pays, les situations sont aussi assez diverses, qu'on soit à Java ou qu'on soit à Flores, c'est pas du tout la même chose. Flores est un cas un peu à part, parce que c'est une île, pour le coup, qui est très majoritairement catholique, et où il y a même le plus grand séminaire du monde qui réside sur l'île de Flores. Dans les autres îles, notamment à Sumatra, les chrétiens existent, hein, il n'y a pas de problème quelque part. On voit les églises, on voit les chrétiens qui se rendent à la messe, mais il y a une série de pressions qui existent, qui ne sont pas forcément évidentes pour le visiteur étranger qui ne ferait que traverser l'Indonésie. En particulier, il y a une islamisation du pays qu'on commence à voir par certains signes. On commence à voir que les femmes sont de plus en plus voilées, alors que le voile islamique ne faisait pas du tout partie des traditions en Indonésie. On voit aussi les salutations changer, parce que maintenant, on ne dit plus les formules de politesse traditionnelles indonésiennes, mais on va dire « salam alaikum » comme en péninsule arabique. Donc il y a une espèce d'arabisation, au fait, de l'islam indonésien, et qui s'explique en grande partie par les financements qui proviennent de la péninsule arabique, qui font que des écoles coraniques poussent un peu partout grâce à ces financements, et qui font aussi que des imams indonésiens sont formés en Arabie Saoudite, en Égypte, dans des pays où ils vont apprendre une forme d'islam qui est très différente de celle qu'ils connaissaient auparavant en Indonésie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des interventions de la loi anti-blasphème en Indonésie qui est utilisée pour fermer le clapet de prédicateurs chrétiens. On l'a vu intervenir dans la fameuse affaire Ahok. Ahok, c'était donc le gouverneur de Jakarta qui a été mis sur la touche en raison d'une utilisation de la loi anti-blasphème. Mais il y a beaucoup d'autres cas moins médiatiques qui démontrent que la liberté de parole n'existe plus sur les sujets religieux en Indonésie, et c'est tout particulièrement vrai quand on est un prédicateur chrétien. Il arrive que des prédicateurs musulmans soient condamnés pour blasphème, hein. Il faut être tout à fait juste, mais ils sont condamnés à des peines beaucoup moins fermes, évidemment, que quand c'est un chrétien qui va critiquer l'islam ou le Coran ou quoi que ce soit d'islamique. Et il y a des débordements beaucoup plus graves quand c'est un chrétien. Je pense en particulier au cas de Mohamed Kassé. Mohamed Kassé, c'était un prédicateur chrétien qui intervenait sur Internet et qui avait des millions de vues. Comme son nom l'indique, il était converti de l'islam, donc ça ne plaît pas du tout aux musulmans. Lui, il a été torturé d'une façon absolument atroce en prison. Et il est encore en prison. Il a été condamné à 10 ans. Donc on ne sait pas s'il survivra à ses détentions, malheureusement.
Dans ce contexte-là, on a le pape François qui arrive et qui veut dialoguer, le fameux dialogue interreligieux. Comment ça s'est manifesté de manière concrète ? Quel a été le message du Saint-Père face à ce contexte extrêmement tendu ?
Alors, comme on pouvait s'y attendre, le pape François, il est intervenu pour favoriser le dialogue interreligieux. Donc il n'est pas venu en mettant les pieds dans le plat, en disant « Regardez, vous avez ce youtubeur-là chrétien qui est en prison, vous avez... » Malheureusement, on l'a peu entendu aussi sur les papous indonésiens malgré eux, dont on a parlé tout à l'heure. Donc sur ces questions-là, c'est resté très feutré. On a entendu une allusion à un moment donné où il expliquait que l'Indonésie avait une très grande mine d'or, mais que c'était pas sa vraie richesse, qu'il fallait pas qu'elle soit aveuglée par cette richesse-là. Mais si vous voulez, pour les Pour les Papous d'Indonésie qui m'ont écrit à ce sujet-là, évidemment, c'était très en dessous de ce qu'ils espéraient. Alors là, évidemment, là, c'est des questions de diplomatie qui nous dépassent tous un peu, parce que quel bien est-ce qui serait sorti d'une parole très ferme du pape à ce moment-là ? C'est pas du tout évident. Est-ce que ça n'aurait pas attiré encore plus de répression de la part du gouvernement indonésien ? J'en sais rien. Je suis pas à sa place et je connais pas tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. Mais force est de constater que pour une partie des chrétiens indonésiens, effectivement, ça a été une déception de voir ça.
Pour vous, ce serait quoi les solutions ? Est-ce qu'il faudrait un changement de gouvernement politique ? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un changement de politique par rapport à l'islam ?
Oui, il faudrait qu'il y ait un changement de politique par rapport à l'islam, et surtout ne pas céder à une naïveté à l'égard de l'islam. On voit Prabowo, Jokowi, on voit aussi les deux dirigeants précédents, voilà, qui maintenant gouvernent un peu main dans la main, parce que Prabowo a nommé le fils de Jokowi comme vice-président, donc ça tient un peu de la dynastie. Eux deux et le candidat Agnès aussi jouent un peu avec le feu de l'islam, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'islam pour arriver au pouvoir. Et ça, c'est excessivement dangereux, parce qu'on sait bien que dans les pays qui font ça, à la fin, c'est les musulmans radicaux qui gagnent, toujours. Donc c'est très inquiétant de les voir faire ça. Eux, peut-être qu'ils auront une présidence tranquille, mais peut-être que dans quelques années, ça va se payer très cher, effectivement, pour l'Indonésie.
Cette problématique spécifique dont vous nous avez révélé les différents tenants et aboutissants, est-ce qu'on la retrouve au Timor oriental ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont des pays plutôt...
Alors c'est des pays chrétiens, à majorité chrétienne, donc il n'y a pas les mêmes problématiques. Le pape a eu des mots, pour le coup, très forts en Papouasie orientale, à l'encontre des violences tribales, qui perdure et qui secoue le pays. On voit, quand on regarde cette région-là du monde dans les médias, on voit qu'il y a quelquefois des vrais massacres, hein, des dizaines de personnes qui sont tuées en raison de violences tribales. Évidemment, il a rappelé l'esprit de l'Évangile et rappelé que ces habitudes-là, c'est pas le mot, mais ces violences-là qui appartiennent malheureusement à l'histoire de cette région doivent cesser. Et il a eu, alors je crois que c'était au Timor oriental pour le coup, cette parole de dire que l'Évangile soit votre culture. Alors ça ne veut pas dire d'éraser la culture précédente, mais que vous vous imprégniez de l'Évangile et que vous en fassiez votre culture. Effectivement, ça c'est une des paroles fortes du pape qu'on peut retenir de son voyage.
Vous nous avez parlé d'une parole forte à l'instant. Est-ce qu'il y a un moment fort, une image qui vous a particulièrement touché au cours de ce voyage ?
Ah oui, à mon avis, les plus belles images, symboliquement, c'était au Timor oriental. Il y avait 600 000 personnes qui étaient là présentes. Ça veut dire que c'était la moitié de la population du Timor oriental qui était présente. Alors, parmi eux, il y avait des Indonésiens. Et ça, c'est très beau, parce que quand on connaît l'histoire du Timor oriental, si vous voulez, c'est comme si il y avait des Hutus et des Tutsis qui assistaient à la messe ensemble, si vous voulez, au Rwanda, quoi. C'est des gens qui se sont entremassacrés. Alors, on fait bien la différence, ils savent bien que c'était pas les Indonésiens d'à côté qui les ont massacrés, mais le fait qu'ils aient pu assister à la messe ensemble, c'est merveilleux. Et avoir une messe avec 600 000 personnes, et puis ce pays très jeune, hein, le Timor oriental a une population très jeune, avec une église si dynamique, un pays où tout est à reconstruire, parce que tout a été complètement dévasté, c'est le pays le plus pauvre d'Asie. Effectivement, c'était une très belle image, un très beau moment.
Comment est-ce que vous expliquez ce dynamisme du Timor oriental précisément ?
Le dynamisme catholique là-bas s'explique... faut toujours commencer par l'explication spirituelle, c'est-à-dire que ça nous échappe probablement qu'il s'y passe des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais politiquement, ça s'explique aussi parce qu'il y a eu un tel rejet de l'Indonésie qui était perçu comme les envahisseurs musulmans qui viennent nous écraser, que beaucoup se sont convertis justement à l'Église catholique en réaction à ça.
Avec un peu de recul, est-ce qu'on peut parler de succès pour ce voyage ?
Oh bien sûr, oui, bien sûr. Pour tous les pays qui ont reçu le Saint-Père l'ont très bien reçu. Les messes ont été magnifiques. Il y a eu des images fortes qui sont ressorties, y compris l'image de l'imam de la plus grande mosquée d'Asie qui recevait le pape François à Jakarta. Il y a tout ce qu'il fallait, si vous voulez, pour le voyage. Après, évidemment, moi, je vous fais part des déceptions qui me parviennent sur le terrain, de ceux qui auraient voulu qu'on parle de leur sort, avec toutes les réserves que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas savoir ce que provoquerait une parole du pape très, très incisive à l'encontre de ces gouvernements.
Et puis au retour de ce voyage, dans la traditionnelle conférence de presse dans l'avion qu'il ramenait à Rome, le pape a déclaré qu'il ne se rendrait pas à la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent ce choix selon vous ?
Je ne vois pas de raison malheureusement, parce qu'il se rend en Belgique ou au Luxembourg. J'imagine qu'il a un agenda très chargé. On ne peut que regretter le fait qu'il ne puisse pas se rendre à la réouverture de Notre-Dame de Paris.
Merci beaucoup Thomas Oswald, journaliste à l'Église en détresse. Nous faisions un point sur le contexte et sur les fruits du voyage du pape François. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. Que la paix soit avec vous.